Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées sur France Culture avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
En guise d'hommage à Juliette Gréco, Jacques, ouais. L'icône de Saint-Germain-des-Prés, vous emboîtez le pas au piéton de Paris, Léon-Paul Fargue.
Je parle, je marche, je me souviens, c'est tout un. Les éditions du Sandre publient l'intégrale de ces chroniques parisiennes dans une édition savamment critique due à Barbara Pascarel sous le titre « L'esprit de Paris » et c'est sa parole torrentielle qui ressurgit dans le décor des rues et l'horizon de façade. Saint-Germain-des-Prés, justement, y figure comme le site de trois grands cafés en vertu desquels la place vit, respire, palpite et dort. Avec ses terrasses qui gazouillent comme un four à frites. Les deux magots, le café de Flore et la brasserie Lip. Nous sommes en 1936, Juliette Gréco a 9 ans, mais déjà, ce coin de Paris est le foyer chaud de la littérature et des idées. C'est chez Lip que Léon-Paul Fargue a pris ses quartiers. À coup sûr, un des endroits, le seul peut-être, où l'on puisse avoir pour un demi le résumé fidèle et complet d'une journée politique et culturelle française. On comprend mieux, écrit-il, on comprend mieux ainsi qu'à 2h30 du matin, le personnel est beau éteindre les lumières de cette agence, de cette cour des comptes de l'événement parisien. Il faille pousser les poubelles dans les jambes des clients pour les mettre dehors. Là ou ailleurs, l'apéro de Paris se divise en deux actes distincts, celui de midi et celui de 7h. Il y a dans l'apéritif du matin une fraîcheur, un coup de vitesse et une humeur pétillante qu'on ne retrouve jamais le soir. En revanche, il y a un sérieux, une puissance de pensée, une sagesse dans l'apéritif du soir qui n'existe pas le matin. L'avantage du soir, c'est aussi l'échappée qui s'ensuit vers la libre déambulation d'une octambule. L'écrivain Francis de Miomandre décrit ainsi une étape du passant considérable, des papiers sous le bras. Il se répand en paradoxes, en récits truculents, en invectives d'apocalypse. Il ruisselle comme d'une rosée de tout ce que Paris nocturne a déposé sur lui, d'angoisse et de mystère. À ceux qui veulent bien le suivre, c'est parti pour le canal Saint-Martin, les Halles ou la rue de Charonne. Paris offre aux générations qui se succèdent un même décor de vertiges et de sentiments enfouis. Il n'y a pas de pas perdu. Éric Hazan célébrera dans l'invention de Paris cette histoire populaire toujours recommencée où se percutent petits et grands métiers, fantômes nocturnes et matinaliers pressés, pénombre et clarté naissante. Léon-Paul Fargue est témoin et acteur des débuts de la radio. Il a été membre du jury d'un concours de théâtre radiophonique, invité pour une conversation par le studio d'essai de Pierre Schaeffer. Le voici dans une série sur les arrondissements de Paris, arrêté au 6e par sa mort en 1947 des suites d'un accident vasculaire cérébral, survenu en 1943 au cours d'un déjeuner rue des Grands Augustins avec Picasso et Catherine Dodley.
Mes souvenirs les plus récents sont là, à cette musique des pierres et des jeux de rue, à des vitrines, à ces brasseries où il semble que tout s'organise en vue de supprimer la détresse et de la remplacer par le goût de vivre, par la douceur de s'asseoir à côté d'un artiste, d'un ami, d'un confrère. La rue Bonaparte, Adrienne Monnier et ses livres, Gertrude Stein, qui vécut ici, la rue du Dragon, mon vieil ami Thibaudet, le surréalisme d'avant la guerre, les bibliophiles, ses beautés, ses relations, sont pour moi du quartier une irremplaçable famille.
La dernière livraison, on était dans le 6e avec Léon-Paul Fargue, la dernière livraison de la revue Ludion, bulletin de la Société des lecteurs de Léon-Paul Fargue, est consacrée à son riche univers sonore, aux voix, aux ondes, qu'il désignait comme les écluses de la parole. Hostile au début de la TSF, elle éveille à peine les grands sourires du passé. J'aime mieux le piano qui fait sa vaisselle à l'étage du dessus et d'où tombent parfois des fables sur mon lit. Il va rapidement s'y prêter, s'y amuser comme le causeur impénitent qu'il est. Il écrit des fantaisies pour le micro, comme ces dîners de lune qui racontent l'histoire d'une jeune fille venue à Paris pour parfaire son éducation auprès de précepteurs comme Cocteau, Audiberti ou Gide, dont il remplacera en partie les voix. Marie Déa interprète le rôle, mais à quelques années près, ça aurait pu être Juliette Gréco.